J'avais jamais emprunté cette bonjour. Emprunté cette petite ruelle qui est toute mignonne et toute retirée là, insoupçonnable. Et donc voilà, on arrive devant la porte de la maison de l'atelier de Léonore. Et voilà. Salut!
Transistor!
Ça va?
Ouais, ça va, super! C'est trop mignon ici!
Les méchants!
Je peux poser mon vélo par là?
Transistor!
Et si on prenait le temps? Le temps d'une rencontre, le temps de se poser et de souffler un peu avec justement une souffleuse de rêve. Éléonore Goldalg souffle le verre au chalumeau. Une technique rare, aussi secrète que délicate et féconde. Peuplant un monde onirique et poétique où s'estompent les frontières entre design, artisanat, science, botanique et art, ces créations assument leur nature hybride, à la fois vase, contenant et sculpture, combinant dans un parfait équilibre virtuosité technique, justesse des proportions, finesse des formes, captivant jeu de lumière et de transparence. On n'avait jamais croisé ailleurs ces créatures élégantes et intrigantes, faisant songer avec leurs longues extrémités aux éléphants surréalistes de Dali. Ces petits monstres, comme elle les appelle affectueusement, accueillent dans leurs entrailles les racines de végétaux qui s'y déploient doucement dans une complète symbiose entre minéral et végétal, vers VE2RE et vers VERT, limpide et pur et luxuriance du vivant. Forme fertile, c'est ainsi qu'Éléonore Goldalg a intitulé la belle exposition qu'accueille jusqu'au 21 juin la Chapelle des Calvériennes, centre d'art contemporain à Mayenne. L'occasion rêvée pour rencontrer cette créatrice multiprimée dans son atelier. Bonjour Éléonore.
Hello.
Hello, merci de nous accueillir aujourd'hui alors que tu viens tout juste de finaliser le montage de ton exposition à la Chapelle des Calvériennes il y a quelques jours. Tu souffles un peu, j'imagine.
Ouais, là j'ai rien fait cette semaine.
Vacances.
Enfin, j'étais pas à l'atelier quoi. Et puis avec les chaleurs, pas possible.
Ouais, j'imagine que c'était intense ce montage d'expo. C'est la première fois. Peut-être que tu montes une expo aussi complète, tu peux montrer beaucoup d'œuvres. Souvent, c'est plutôt des petits showcases.
Ouais, habituellement, c'est plutôt des expositions collectives avec d'autres artisans, artisanes.
Une œuvre, deux œuvres.
C'est ça, tout à fait. Et ici, ça me permet plutôt de faire ce qu'on appelle un solo show. Exposition individuelle en français, mais c'est moins stylé. Et après, c'est marrant parce que quand j'ai monté l'exposition là, pendant la semaine de montage, je me suis dit, ah, mais c'est comme si je repassais mon diplôme. Enfin, tu vois, ce côté hyper, hyper enjoué de je vais montrer ce que j'ai fait tout au long de l'année depuis plusieurs années maintenant, parce que ça fait 3-4 ans que je suis souffleuse de verre. Mais c'était bien. Enfin, c'était bien organisé en amont. Donc, tu vois, le montage s'est fait tranquillement. C'était bien.
C'est une super opportunité qu'on t'a offerte, à l'équipe du kiosque. Puis c'est l'équipe du kiosque à Mayenne qui porte cette exposition au Centre d'art contemporain de la Chapelle des Calvériennes. C'est chouette qu'ils t'aient fait cette proposition.
Ouais, moi je suis hyper contente que c'est Marion Lemonnier qui m'a proposé ça il y a un ou deux ans quand elle était passée à mon
centre d'art.
Ouais, c'est ça. Et c'est une super opportunité parce que ça m'a permis de me challenger un peu et de proposer des nouvelles formes, des nouvelles matières sur lesquelles je travaillais depuis un moment mais que j'avais pas encore montré.
Ok, tu veux dire que là il y a des choses inédites.
Ouais, non mais vraiment, il y a des choses sur lesquelles je communique pas des masses sur les réseaux parce que c'est beaucoup trop chronophage, mais par exemple je travaille avec du verre coloré maintenant sur les petits monstres, j'ai des techniques de colorisation un peu nouvelle où je travaille maintenant sur des dégradés de couleurs, ce qu'on voit pas habituellement je sais pas comment dire ça, dans le soufflage de verre au chalumeau traditionnel, on va dire. Et puis je travaille aussi sur la mousse de verre, donc ça aussi c'est un côté un peu mystérieux.
On va pouvoir parler de tout ça au cours de cette émission, rentrer un peu plus dans le détail, notamment de cette expo qui est présente. Merci aussi de nous accueillir chez toi, parce que voilà, je le précise, on est chez toi ici. On entend d'ailleurs le lapin qui est en train de
grignoter les cartons de déménagement.
En tout cas, merci de nous accueillir ici. Canicule oblige, on est installé au frais dans ta cuisine, mais on ira tout à l'heure visiter ton atelier qui est juste à côté. C'est très calme ici, on entend les oiseaux qui chantent au loin. On est sur les hauteurs de Laval, pas très loin du 40, au bout d'une toute petite impasse tortueuse, insoupçonnable depuis la rue. Ça va un vrai havre de paix ici.
Ouais, on y est bien. On y est bien et ça sort un peu du centre-ville qui peut être plus dynamique. Ça permet aussi de pouvoir se concentrer sur ce qu'on a à faire, quoi.
Ouais, c'est ça. T'as besoin d'un endroit calme pour travailler, d'être un peu coupé du monde, de la rumeur
ouais,
du monde.
Ouais, bah ouais, souvent quand je travaille, je suis assez solitaire de manière générale. Et donc, ouais, j'ai besoin d'être dans un milieu où je peux me concentrer au calme.
Voilà, notre invité est présenté, le contexte est posé, on peut démarrer Transistor l'émission, c'est parti. With my friends, go to stores, check new trends. I love my neighborhood. Enjoy the good food, feed me with your care. It feels warm, I swear. I'm a nice boy, a cool guy, a bit wild. But something went wrong, bad feeling sometimes so strong. Hard job is going on, nothing is really done. I like to live good, work hard, have kids. Don't bother me with your attitude, will you please take your pills? That I'll never give. Go, it's time to go. It's called life, man, could you believe? Each time that I go, everything I have achieved. Go, it's time to go. I'm flexible, totally responsible. Qualifications microwavable. And if you think I'm lying, well, you better gamble. I have to admit, my boss is cruel. And really, this ain't cool. Believe the fool. In gesture, this is pure torture. I told you, beware when you put yourself in danger. Represent KFC, Big Burger MC, 24th of Odyssey. So now what, are you gonna call me? Each town that I go, go, it's time to go. Each town that I go, I have a gift that I'll never give. Go, it's time to go. It's called life. Man, could you believe? Each town that I go, everything I have achieved. Go, it's time to go. Are you gonna call me? Naïve New Beaters, un choix musical de notre invitée, la souffleuse de verre Eleonore Goldalg, qui nous reçoit chez elle à Laval où elle est installée depuis 2020 et l'atelier est en place à peu près depuis 2023. Eleonore, c'est Laval, c'est la ville où tu es née en 1994, pardon, et où tu as grandi. Dans quel contexte familial tu as grandi? Est-ce que déjà dans ton environnement familial, il y avait des choses qui t'ont amené vers le métier que tu fais aujourd'hui?
Alors, vers le métier que je fais aujourd'hui, je pense pas, parce que j'ai été éduquée dans une famille où il fallait pas prendre de risques. par contre, j'ai beaucoup travaillé j'ai fait beaucoup d'activités manuelles, mais plus de loisirs créatifs avec ma mère notamment et ma grand-mère les étés ou les week-ends à faire du modelage. On a pu faire de la poterie, du scrapbooking, pas mal, de la couture, toutes ces choses-là qui sont très ancrées dans un système Bon, je vais, on va, tu couperas cette partie-là. Non, non, parce que ma mère va me reprocher.
C'est très féminin, quoi, tout ça. C'est ça que
voilà,
tu veux dire.
Voilà, c'est ça, mais je veux bien qu'on coupe.
Toi, tu faisais pas de bricolage, tu faisais pas
J'avais pas trop le droit de faire du bricolage, alors que c'est quelque chose que j'aime bien.
Ouais.
Mais par contre, des activités manuelles. Ouais, les activités manuelles, j'en ai faites pas mal. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi donné envie d'aller plus loin dans ces activités-là et en me challengeant un peu plus avec des activités plus complexes que couper du papier.
Est-ce que vous alliez voir des expos, fréquentiez les musées ?
Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout.
Est-ce que tu as une sensibilité artistique qui s'est construite aussi dans ton enfance, dans ton adolescence, à côté des activités manuelles que tu pouvais faire ? Est-ce qu'il y a des choses aussi plus créatives, plus artistiques qui sont venues à un moment aussi t'impacter et puis voilà, t'influencer ?
Je pense que c'est venu pas mal après le lycée parce que je suis sortie d'un moule et arrivée dans les études supérieures, j'ai rencontré des personnes totalement différentes. Et puis ça t'ouvre aussi pas mal de perspectives, même quand tu es dans tes cours où les profs te font comprendre qu'il y a 1000 possibilités et que tu dois pas te laisser de limites. Donc ça m'a permis aussi d'avoir pas mal d'ouverture et je suis une personne très curieuse de base. Et j'aime bien découvrir plein de choses. Donc c'est vrai que tout ce qui est artistique, la découverte des musées, aller au cinéma ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je faisais pas mal pendant mes études.
Oui, c'est vraiment le moment des études qui t'a ouvert énormément.
Ouais.
Mais en même temps, t'as quand même fait le choix de faire une école d'art appliqué, puisque tu vas entrer à l'école d'Olivier de Serres à Paris, qui est une école d'art appliqué, en fait.
Ouais.
Et tes parents, là, qui ne voulaient pas que tu prennes de risques, t'ont quand même laissé aller vers un métier artistique. Bon, les arts appliqués, c'est plus rassurant, parce qu'il y a un côté... fonctionnel, c'est pas non plus l'artiste bohème qui vit d'amour et d'eau fraîche.
Moi, à la base, dans mes études, ce que je voulais faire, c'était pas rester au lycée, c'était partir dans une école de danse pour faire une formation en danse, ce que j'ai pas eu le droit de faire.
Est-ce que t'avais aussi, on parlait de tes pratiques artistiques, on n'a pas parlé de ça, mais t'avais aussi une pratique.
Je faisais pas
de
mal
danse.
De sport, j'ai fait plus d'une vingtaine d'années de danse diverses et variées. Je faisais de la gymnastique rythmique aussi, je faisais de la gym, enfin voilà, j'avais pas mal d'activités sportives à côté.
Le corps, quoi.
Ouais, pas mal. Parce que je m'exprime plus par le corps que par le langage. Et donc, au final, j'ai pas eu le droit de faire ce que je souhaitais faire.
Ça, c'était trop risqué, quoi.
Ouais.
Pour tes parents. Trop.
Ils y voyaient peut-être pas l'intérêt, je ne sais pas. Mais.
Frustration, quand même.
Non, mais je me suis dit, en fait, je verrai ça quand j'aurai 18 ans et puis je pourrai faire ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, je me suis inscrite post-bac pour une mise à niveau en art appliqué dans laquelle j'ai été prise. Et ensuite, j'ai pu rentrer dans des écoles, dont Olivier de Serres, qui est l'une des 4 grandes écoles parisiennes. Et donc, je suis restée effectivement dans les arts appliqués parce que ça me correspondait plus à l'époque. Mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait le plus. Et après, je suis partie à Saint-Étienne. Voilà. Donc,
L'école supérieure d'art et de design de Saint-Étienne.
Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, je me suis vraiment épanouie parce que ça me correspondait beaucoup plus. Enfin, le cadre était très expérimental. J'avais aussi beaucoup, beaucoup d'autonomie et j'ai pu faire beaucoup de projets. Et ouais, je m'y suis vraiment retrouvée. Olivier de Serres, ça m'a appris les bases carrées, on va dire, savoir faire des plans, travailler sur des 3D, savoir monter un cahier des charges, etc.
Les outils techniques.
Ouais, c'est ça, vraiment la base. Et ensuite, j'ai pu me libérer de toute cette base-là pour faire des choses qui me correspondaient plus, développer ma personnalité, développer mon processus créatif, etc.
Il y avait une entrée plus artistique à Saint-Étienne, à l'ESAD,
ouais.
Et où tu as pu vraiment entrer dans une recherche de ce que toi, tu voulais faire.
Ouais, c'est ça.
Toi et Léonore.
Ouais. Il y a ça et puis il y a le fait qu'on soit...
On vous encourage à ça en tant qu'étudiant.
Ouais, on nous encourage vraiment à développer notre personnalité. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on est aussi créateur, créatrice. C'est qu'on montre une partie de notre personnalité. On ne travaille pas dans un cabinet de design où en fait, on travaille pour une autre personne. On peut le faire en sortant de ces études-là, mais moi, ça ne me correspondait pas. Et c'est vraiment le côté très autonome, développer ses propres projets qui m'a plu dans cette école-là, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers où tu peux faire du bois, de la céramique, du métal, tu peux monter des projets. Moi, j'ai monté des workshops soufflage de verre au chalumeau à l'époque. T'étais vraiment libre, en fait. Si on te fait confiance et que tu sais faire des choses, ils te laissent faire. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Et on te donne les moyens de les faire.
Ouais, on te donne les moyens. Vraiment, Saint-Étienne, l'école de design... elle est trop chouette. Enfin, je regrette pas du tout d'y être allée. C'est vraiment une... L'école, elle est au top, quoi.
C'est là que t'es devenue ce que t'es aujourd'hui, quoi. L'artiste que t'es aujourd'hui. Elle est née là-bas, à Saint-Étienne.
Ça m'a vraiment permis de développer...
C'est en 2017 que tu es rentrée à Saint-Étienne.
Je crois.
C'est ce que j'avais lu sur ton CV.
Ouais, ça doit être ça. 2015, de 2015 à 2019, je sais plus.
Tu vas y rester quelques années quand même. Ça
4 ans, ouais.
Ouais, 4 ans. Ouais. Et entre-temps, tu fais aussi un petit voyage, une petite translation à Bratislava.
Ouais.
Ouais, à l'Académie des Beaux-Arts de Bratislava.
C'est ça, tout à fait. Une très chouette expérience aussi. Je suis restée 6 mois à la Veux-Cheveux-Houx, comme on l'appelle là-bas. Wow.
Je te laisse le prononcer. Moi, j'ai dit Académie des Beaux-Arts.
Et c'était hyper chouette. Enfin, j'ai pu apprendre. Du coup, là-bas, j'ai fait une formation porcelaine où j'ai appris le modelage et le coulage en porcelaine. J'ai fait une formation textile, sérigraphie sur textile, bijouterie. Et je vivais avec des Slovaques qui étaient aussi à l'école, dont Christina Saïdelova, qui est photographe et qui enseigne maintenant à l'école de design aussi à Bratislava.
Ok. Et du coup, j'ai vérifié, c'était bien 2015 ton entrée à Saint-Étienne.
Oui, c'est ça.
Bien vu. T'as une bonne mémoire des dates. Comment tu rencontres ce qui va être ta pratique aujourd'hui, c'est-à-dire le soufflage de verre au chalumeau? Attention, c'est pas le soufflage de verre qu'on connaît, qu'on a vu un peu traditionnel, où on souffle sur un verre en fusion. Là, en fait, c'est différent, en fait. Tu nous expliques déjà un peu ce que c'est. On va en reparler plus concrètement, mais ensuite. Et puis, comment tu découvres cette pratique-là?
Alors, en quelques mots, le soufflage de verre au chalumeau, déjà, c'est pas le même outil, donc c'est bien que tu le précises. Effectivement, c'est un chalumeau, on travaille pas un verre, on va pas chercher une paraison dans un four avec un verre qui est très organique.
Moi,
c'est. Ouais, une paraison, c'est on appelle ça. La paraison, c'est quand tu viens avec ta canne chercher dans le four, tu vois. Un verre qui est liquide.
C'est ça, qui est déjà en fusion.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ça s'appelle une paraison, tu cherches ta paraison, tu viens la tourner et puis t'en rajoutes au fur et à mesure en fonction de ce que
matière,
tu souhaites faire.
Ouais.
C'est pas du tout la même gestuelle et nous on travaille à partir d'un verre qui est déjà préexistant et pré-industrialisé et c'est des techniques différentes notamment parce que ça vient de la verrerie scientifique à la base, mais ça on pourra en rediscuter tout à l'heure, mais du coup on fait pas du tout le même type d'objet, c'est pas la même taille d'objet, c'est pas les mêmes précisions, etc. Et donc la verrerie scientifique moi ça m'a piqué pendant mes études à Saint-Étienne. Parce que souvent, quand je fais des projets, je vais voir des gens et puis je vois si ça passe ou pas. Et puis je développe des projets avec eux ou pas en fonction de comment ça fonctionne. Et donc une fois, je faisais un projet pour moi à l'école. Et je m'étais dit, mais j'aimerais bien le faire en verre, mais je ne sais pas chez qui le faire parce que les souffleurs de verre à la canne ne font pas ça. Et j'avais vu qu'il y avait une école qui s'appelle le lycée Caroline Dorian à Paris. Et puis au culot, je suis allée les voir en me disant, j'aimerais bien aller voir un enseignant, j'ai une question à lui poser. Je suis montée dans les ateliers et j'ai rencontré Ludovic Petit, qui est l'un des profs référents de cette formation-là. Et trop gentil, il m'a dit, oui, je te le souffle, vas-y, regarde, ça se fait comme ça et tout. Ensuite, on a discuté, je lui ai proposé directement si ça le tentait de faire un workshop de soufflage de verre avec mon école. Il a dit ok, et du coup, on a développé un premier workshop pendant mes études que j'ai organisé. Et ensuite, j'ai jamais lâché ça. J'ai rencontré Maya Matsakis, avec qui j'ai fait pas mal de projets perso sur la fin de mes études. Et puis, au bout d'un moment, ça a été trop frustrant pour moi de pas pouvoir souffler. Tu vois, toujours d'être derrière la
personne. Demander à quelqu'un de...
Ouais, enfin, moi, c'est vraiment un truc... on n'est jamais mieux satisfait que par soi, mais voilà, c'est, moi, c'est un de... Voilà.
Ouais.
Et...
Je souscris.
Et du coup, c'était trop frustrant et je me suis dit, tente la formation. Ça a été compliqué de rentrer parce que j'étais un peu trop âgée. C'est une formation CAP, donc c'est vraiment des lycéens, lycéens.
Ouais, voilà, tu t'es retrouvée avec des jeunes
lycéens. Mais ils étaient trop sympas, ils étaient trop chouettes. Il y avait quelques adultes.
T'avais un parcours d'études supérieures, tu venais d'avoir ton diplôme.
Ouais, c'était assez étonnant de retourner dans un système. Enfin, le
très
lycée,
scolaire,
quoi. Ah ouais, faut pas arriver en retard, sinon t'as des mots dans ton carnet. Ils t'envoient des messages quand t'arrives. Enfin, tu vois, votre enfant n'est pas arrivé.
Et en plus, toi, t'étais pas là tout à fait pour les mêmes raisons que ceux qui étaient là. C'est-à-dire que toi, tu te destinais pas à faire de la vérité scientifique. Parce qu'il faut bien le dire, cette formation, elle se destine à former des personnes qui vont ensuite faire des becs benzène. Enfin, non, c'est pas ça, les becs benzène. Si
des becs benzène,
c'est pour chauffer.
Oui, c'est
non,
ça.
Comment ça s'appelle
Un réfrigérant, un alambic, des pipettes.
Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Et mes cours de physique et la chimie sont loin. mais en tout cas, voilà, toi, c'était pas ça ton objectif. Toi, ton objectif, c'était d'apprendre les techniques pour pouvoir t'en servir ensuite comme artiste.
Ouais. Réinvestir toutes ces techniques, mais en restant quand même pendant toute mon année de formation hyper sérieuse sur l'apprentissage, parce que c'est hyper dur. Enfin, vraiment, c'est une formation, ça fait pas de cadeau, quoi. C'est physique, il faut rester concentré quand t'as pas l'habitude. Et en plus, retourner au lycée, c'était quelque chose, quoi. Mais ouais, c'était de connaître aussi ce que c'est que la dynamique des souffleurs de verre industriels, faire des objets à la chaîne, puisque les personnes qui font cette formation sont destinées à partir en industrie derrière, ou être dans des laboratoires ou dans des universités pour travailler avec des chercheurs-chercheuses. Donc c'est vrai que moi, c'était pas ce que je souhaitais, mais effectivement, je réinvestis tout ça pour créer des choses qui me correspondent plus maintenant.
Et c'est pourquoi, en fait, ça te séduit tant, cette technique, cette matière, le verre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas d'un éventail très large que tu avais peut-être au départ à l'école, où tu te formes aussi à la céramique, à la broderie ou à la bijouterie dont tu nous as parlé, et puis plein d'autres choses. Comment, à un moment, tu rencontres quelque chose qui te dit « ça y est, ça c'est... » Est-ce que tu te dis comme ça d'ailleurs? Est-ce que c'est ma voix, j'ai trouvé là?
J'ai cherché pas mal. La broderie, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien les choses sur lesquelles il faut te concentrer très longtemps. Où tu vois, tu réfléchis à rien d'autre que ce que tu fais. Vraiment, c'est ça. Et la broderie, c'était quelque chose qui me plaisait pas mal aussi, notamment le point Bologne. Mais le soufflage de verre au chalumeau, c'est quelque chose qui, je pense, me challenge bien. Et comme c'est compliqué, eh ben j'aime bien. C'est juste, c'est compliqué et du coup, ça me challenge et je me dis, ok, go, j'aime trop, quoi. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino pa' bailar, no pa' una siesta. A ver los que están en esta esquina. No quiero a nadie calentándome la silla. Los de aquí de la derecha. A ver mi doña, parece esa mesa. Y un saludo pa' la tía favorita. Que está en la cocina, dame una vueltita. Todo el mundo, hágame una fila. Lo quiero ver con la mano pa' arriba. Bailando sin pena, sin pereza.
Vamos a romper el hielo. ¿Cómo te llamas?
Valentina. José Pite.
Yo, Luciano.
¿Y tú?
Bailando sin pena, sin pereza, que el meneíto apenas empieza. La mano derecha en la cabeza, la otra mano en el ombliguito. Con esa actitud tropico coqueta, moviendo las pompis suavecito. Mira cómo mueve los hombritos, mira cómo mueve los hombritos, mira cómo mueve los hombritos, mira cómo mueve los hombritos.
La colombienne Carole G, dont on entend peut-être résonner parfois les chansons dans l'atelier de Eleonore Goldalg, où nous sommes d'ailleurs maintenant, on a migré vers ton atelier, Eleonore. Ton atelier, c'est un petit labo en fait. C'est ton labo, quoi.
C'est
ton
minuscule.
Ton labo secret.
Ouais.
C'est minuscule. Ouais.
C'est minuscule.
Labo de poche.
Ouais, hyper ergonomique.
Super bien conçu, quoi. C'est toi qui l'as conçu de A à Z, j'imagine. T'as pris le temps de... En général, quand on installe ce genre de pièce, on prend le temps de réfléchir à tout ce qu'on va y faire et comment on va rendre les choses les plus ergonomiques et fonctionnelles possibles.
Ouais, j'ai travaillé avec une designer d'espace qui s'appelle Perrine Marteau, qui m'a beaucoup aidée sur l'agencement de cet atelier-là.
Okay.
En se disant, bon, écoute, t'as une partie à chaud, t'as une partie à froid, il faut que tu mettes un four. Comment t'arrives à assembler tout ça dans 8 mètres carrés?
C'est ça. Donnons la surface.
Mais ça se fait, hein. C'est la parfois preuve. Un peu ouais. compliqué, mais
et
ça
on
se
sent
fait.
Pas étouffé non plus. C'est lumineux,
non.
en plus.
Ouais, c'est hyper ouais. lumineux. Après, on n'est que deux dans l'atelier, ouais, donc ouais, ça ouais. va. Dès qu'il y a
plus
de monde...
En général, toi, t'es
seule. Ouais, moi, je suis seule, de manière générale. Donc ça passe, mais c'est vrai que dès que t'as besoin de mettre le four, bah faut le sortir de sous la table. J'ai un four sur roulette, donc dès que je lance mes cuissons, hop, faut déplacer le four.
Okay.
Dès que je fais de la coupe à la scie, il faut que je déroule toutes mes protections. Faut que je passe un coup de serpillière après. Enfin voilà, il y a des inconvénients, mais il y a pas que des inconvénients. Il est très très chouette cet atelier.
Alors là, on est face à une grande paillasse en fait.
Oui.
C'est ton grand bureau qui est assez haut.
Ouais.
Sur lequel tu as posé tes principaux outils, en fait, dont on va en parler tout de suite parce que c'est la pièce maîtresse, ton chalumeau.
Oui.
C'est vraiment ton outil de travail quotidien le plus important.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous le présenter, cet outil? D'ailleurs, je crois que c'est un outil qui est assez ancien.
Oui.
Que tu as récupéré d'un autre souffleur.
Ouais.
On se les passe de souffleur en souffleur.
Ouais, c'est ça.
Un peu comme les violons, tu sais, les Stradivarius.
Ouais.
Quand...
ouais, c'est un peu mon Stradivarius à moi, quoi.
C'est ça.
Non, mais il doit avoir bien 70 ans, le coco, là.
Ouais.
Donc ça, c'est un chalumeau 5 têtes, un CFG pour être plus précise. C'est des chalumeaux qui sont typiquement français, qu'on retrouve... quasiment que en France ou frontalier pour les personnes qui travaillent avec. Et nous, c'est avec cet outil-là qu'on apprend à travailler à l'école. Mais quand on part à l'étranger, ils nous regardent un peu comme des ovnis parce qu'on ne travaille plus comme ça maintenant. Enfin, c'est okay. vraiment un vieux truc, quoi.
Ok, d'accord.
Qui fait beaucoup de bruit et tout. Mais bon, moi, je travaille comme ça. Et donc, sur ce chalumeau, tu as 5 buses qui sont les 5 têtes. Que tu peux tourner et ça te permet...
Tu choisis à chaque fois.
Ouais, c'est ça. En fait, en fonction de ce que tu souhaites faire, par exemple, ici, c'est une buse canon, ça me permet d'avoir une flamme qui est très, très grosse, très large. Ça permet de mettre en température mes pièces ou quand je travaille sur des gros diamètres, de pouvoir mieux les chauffer. Ici, tu as une toute petite buse. Donc là, ça te sort une flamme qui est très fine et ça permet plus de venir faire fondre précisément certaines soudures, des choses comme ça. Et l'une qui est typiquement française, c'est la buse râteau.
Ah oui.
Qui amène une gestuelle qui est aussi typiquement française, entre guillemets, où là, je peux venir arracher le verre en deux.
Ok, ça permet de couper le verre, en fait.
Ouais, voilà, ouais. entre guillemets. On okay. appelle ça une buse râteau qui
c'est
fait...
C'est vrai que ça ressemble un peu à un râteau.
Ouais.
Il y a 5 pics comme ça, même plus, il y en a plus que 5.
Un peu moins de 10, ouais, je crois.
8 ou 9.
C'est bon, 8, il y en a 8. Mais ouais, dans l'idée, ça te fait une flamme qui est très droite, très, très coupante. C'est une flamme qu'on dit rasoir aussi.
Okay.
Et ça permet de venir couper le verre avec une gestuelle vraiment particulière. C'est des techniques à chaque fois. En fait, chaque buse permet de développer des techniques différentes. Et ça, c'est mon petit, mon petit chouchou. C'est mon outil de travail principal.
Ouais, et en fait, il est articulé. Donc on peut,
ouais.
tu peux vraiment le déplacer, je me permets de le toucher.
Oui, ouais, vas-y,
tu peux vraiment, ouais, tu peux vraiment le déplacer, le positionner comme tu veux, en fait,
ouais.
en tout cas.
D'avant en arrière,
sur cet axe-là, d'avant en arrière, voilà.
Là, je peux le monter aussi un peu si je veux. Y en a qui travaillent sans qu'il soit collé à la table, parce que le soufflage de verre au chalumeau, on dit travaille à la table ou travaille autour. À la table, c'est quand il est posé, mais en soi, il y a des personnes qui travaillent à la table debout. Et donc, tu peux aussi... Moi, ça m'arrive de travailler en étant à cette distance-là, tu vois, sans forcément être assise devant mon chalumeau.
Debout, ouais.
Ouais.
Et donc, du coup, là, il y a deux tuyaux qui sont reliés au chalumeau. C'est ça qu'envoie le gaz et qui va créer la combustion et qui va envoyer une flamme à plus de 1200 degrés, je crois.
Ouais, c'est ça, ouais. 1250 à peu près et plus si affinité. En gros, j'ai un tube pour l'oxygène et un tube pour le gaz. Côté oxygène, j'ai pas de bouteille d'oxygène, j'ai deux oxyconcentrateurs. Donc ça, c'est des respirateurs artificiels
okay.
qu'on retrouve dans les maisons de retraite, okay. les hôpitaux, tout ça.
D'accord.
Et en fait, ça récupère l'air environnant, et ça redistribue en gros un air pur à 99%,
okay.
un oxygène pur.
Okay.
Et à côté, j'ai mon gaz, et puis il y a un col de Venturi qui permet de mélanger les deux, de mettre l'ensemble sous pression. Et ensuite, ma flamme, elle commence à 500, et puis je la monte au fur et à mesure...
Okay.
En fonction de ce que je dois
faire.
Et
en fait, donc tu présentes ton verre en fait qui se présente sous forme de tube.
Ouais.
C'est ça aussi la particularité du soufflage de verre au chalumeau, c'est
ouais.
que vous utilisez des tubes en fait de verre de différents diamètres qui peuvent être pleins, qui peuvent être creux comme un tube vraiment. Et donc tu positionnes ce tube au niveau de la flamme, et en fait là il va rentrer en fusion. Mm. Et c'est là que tu vas pouvoir le travailler, c'est-à-dire le courber, l'étirer, le transformer, quoi, en fait. Mm, et lui donner la forme que tu veux.
Tout à fait, ouais.
Ou le souffler même, parce qu'il faut qu'on parle de ça, c'est quand même du soufflage.
C'est vrai qu'on dit soufflage de verre. Il n'y a pas que du soufflage, du coup, il y a aussi du modelage, mais effectivement je pars à partir de tubes ou de baguettes que je viens chauffer localement pour pouvoir les déformer. Et après, c'est assez varié. Tu peux avoir des toutes petites tailles du type diamètre 4 mm, comme des grosses tailles comme tu as au bout de mon atelier.
Là, on en a effectivement des gros tubes qui vont faire 1 cm de diamètre.
Ouais, même 20 cm de diamètre. Ah ouais, bah, là, tu vois, au fond, dans l'angle, on doit être à 18 cm ou 20 cm de diamètre. Et ça, pour le coup, je ne peux pas le tenir à la main parce que le tube est trop lourd. Donc, et puis, il faut toujours qu'il soit en rotation. Et moi, je ne peux pas le faire.
C'est des énormes objets, là.
Ouais. Et donc, là, tu passes sur un tour mécanique parce que je travaille aussi au tour quand j'ai la possibilité.
Tu dois toujours faire tourner la pièce, en fait, pour que la température soit homogène sur la pièce.
Pour que la chose soit homogène,
verte,
en fonction de ce que tu dois faire, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais nous, en tout cas, dans ma formation de base, on nous apprend bien qu'il faut toujours avoir un mouvement qui soit régulier pour que la chauffe soit homogène et que tu puisses du coup avoir une matière quand tu la souffles qui est aussi homogène avec une épaisseur homogène sur toute la pièce.
Et donc là, en parlant du soufflage, tu utilises aussi un tuyau du coup que tu vas introduire dans le tube et qui va te permettre de le gonfler en gros comme un ballon si tu lui donnes une forme arrondie. Voilà, il y a aussi un travail de maîtrise du souffle vraiment. Je pense que c'est aussi toute une tout un apprentissage.
Ouais.
Quelle intensité on donne, comment.
Et c'est vrai que.
En même temps, ça doit être assez jouissif.
Au bout d'un moment, tu prends le coup de main, enfin le coup de souffle en quelque sorte. mais après, c'est quelque chose qui s'apprend de savoir gérer son souffle dans la pièce, à quel moment tu souffles aussi, parce que si tu souffles trop tôt, en fonction de où chauffe la pièce,
chaud,
c'est pas.
Ouais,
parce que tu as de l'épaisseur, donc parfois tu souffles que l'intérieur de ta pièce, pas l'extérieur. Enfin voilà, c'est assez technique à ce niveau-là.
Ouais.
Savoir à quel moment souffler, et puis. Puis aussi, je sais plus ce que je voulais dire, mais le système de soufflage là, donc c'est ça.
Ouais, oui, quel petit tuyau que tu me montres là.
Un petit tuyau
qui fait une trentaine de centimètres avec un petit diamètre.
Ouais, qui est assez sale, faudrait que je le change, c'est un peu dégueu quand même. mais ce système de soufflage, il me permet d'avoir une certaine souplesse quand je travaille avec mes objets, parce que technique traditionnelle, c'est de souffler à la bouche directement, ce que moi je fais beaucoup moins, et c'est comme ça que par exemple mon maître de stage Thierry Pain, il a appris à faire. Lui, il souffle beaucoup à la bouche. Moi, je suis plus dans la méthode contemporaine où je viens plutôt tenir ma pièce avec mes deux mains pour être plus libre et du coup regarder comment je souffle. Enfin, les techniques sont vraiment différentes du coup. Voilà.
Et donc voilà, là on a plein de sur ta palette, il y a plein de tubes de verre.
Ouais.
Et il faut qu'on parle du verre aussi que tu utilises. C'est un verre borosilicate.
Ouais.
C'est un verre particulier.
Oui.
D'ailleurs, en fait, en travaillant, en préparant l'interview, je me rends compte que le verre, c'est un matériau incroyable en fait, qui transmet pas la chaleur. Mm. Ce verre-là, il est presque incassable. Mm. Il y a des propriétés incroyables, quoi. En fait, et aussi c'est très sain. Enfin voilà, ce matériau, je comprends aussi pourquoi tu l'as choisi, quoi. Il a tellement de qualité.
Ouais. Oui, c'est vrai que le verre borosilicate, c'est un verre assez particulier que moi, j'essaye de mettre en valeur dans mes objets d'une manière ou d'une autre, parce que je fais des objets qui semblent fragiles, délicats, tu vois, assez fins, et finalement qui sont hyper résistants.
On a l'impression qu'ils vont se casser dès qu'on les touche.
Alors qu'au final, moi, j'ai tendance à les faire un peu chuter, tu vois. Je sais que c'est OK parce que le verre borosilicate est hyper résistant et au choc mécanique et au choc thermique. Donc ça, c'est un des points positifs de ce matériau-là. Et effectivement, il est diatherme, donc il ne transmet pas la chaleur, ce qui fait que quand on travaille, c'est pour ça qu'on travaille sans gants, notamment, tu ne te brûles pas.
En touchant le verre.
Pas là où il est chaud, quoi. Si tu as la flamme qui est passée devant, sûr, tu te brûles, mais dans l'idée. Il a pas mal de qualités, ce verre-là, mais du coup, ces qualités-là font aussi que la température de chauffe est beaucoup plus importante, qu'il faut toujours le remettre en température parce qu'il a tendance à refroidir beaucoup plus vite que le soufflage.
C'est exigeant, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exigeant comme matière.
Ok. Et tu disais que tu avais un four aussi. Du coup, à quoi il te sert, ce four?
Mon four, il sert à faire des recuissons. En gros, quand tu travailles le verre, tu vas créer des tensions dans le verre. Parce que tu as des... je suis pas chimiste, mais tu as des petites cellules qui sont alignées les unes aux autres, qui se désalignent, ouais, parce que tu viens le modifier, et donc ça crée des tensions. Et si tu veux tout réaligner, tu es obligé de faire une cuisson à une certaine température, okay, de chauffe pour pouvoir enlever toutes les tensions, mmh, et qu'il n'y ait pas de soucis, mmh, de casse derrière.
Ok, ça resolidifie le verre finalement.
Ouais, c'est okay, ça. Donc toutes mes pièces sont forcément recuites avant de sortir quelque part.
Ok. Mmh. Et donc ça, c'est la partie chaude. Mmh. Il y a la partie froide où tu as recréé une cabine en fait à l'intérieur, ouais, de ton labo, de ton atelier. Et en fait, c'est là qu'il y a une grosse scie.
Oui.
comme une scie circulaire un peu. Je connais pas très bien les outils, mais voilà. Et qui te permet de couper le verre. Mmh. Parce qu'on peut couper le verre aussi de façon très très nette avec, ouais, ce type d'outil.
C'est
mais
ça.
Là, il faut le faire à froid.
Il faut le faire à froid. Le travail à froid, pour moi, il y a trois choses différentes. Il y a et de la gravure et du sablage. J'ai une sableuse aussi, mais qui est dans la salle d'à côté, parce que c'est trop petit ici. Et puis, ma fameuse scie qui a une lame spéciale. C'est une lame qui est diamantée et résineuse. Et ça coupe vraiment le verre comme du beurre.
Okay.
Donc, moi, je travaille à la volée. C'est une technique particulière où tu viens pas caler ta pièce et pousser un chariot, c'est à la main directement où tu viens orienter, mmh, ta pièce pour pouvoir la couper comme tu le souhaites. C'est une technique où il faut vraiment prendre son temps parce que t'as vite fait soit de casser la pièce, soit de péter la lame qui est assez fragile. Donc okay, c'est une technique qui se développe petit à petit.
Okay. Alors dans ton atelier, il y a aussi plein de schémas, de super beau d'ailleurs, tu dessines, mmh, très très bien. De tes pièces en fait que, mmh, tu dessines, une sorte de maquette en une dimension.
Ouais.
Et puis on en reparlera tout à l'heure quand on parlera aussi de tes pièces un peu phares, les petits monstres. Et il y a aussi un cahier de bord, un carnet de bord, mmh, sur lequel il y a aussi des petits schémas. Et là vraiment on voit toutes les étapes en fait de la fabrication d'une pièce, de la préparation, l'assemblage, je vais les lire. La cuisson, la préparation de coupe, la coupe, le rinçage, le rebrûlage, la cuisson, la préparation de sablage, le nettoyage. Toutes ces étapes-là pour fabriquer une pièce, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et à chaque fois, tu minutes,
oui,
pour chaque étape et même des sous-étapes, tu minutes vraiment.
Ouais.
Et ça te permet, en fait, de voir le temps que tu as pris la création d'une œuvre. Ça te permet aussi de garder une trace de différentes étapes.
Ouais.
Et c'est à la fois en fait un quelque chose qui te permet d'évaluer ton temps de travail, mais aussi un pense-bête pour pas oublier les étapes. Et
c'est ça, voilà. Tout à fait. Mmh. Ouais. Mmh. Ça me permet et de me souvenir quand j'utilise des techniques particulières pour pas me gourer, ou tu vois, pour me dire aussi si jamais sur un nouveau projet j'ai cette même technique, de me dire ah ok, bon, je sais à peu près vers où je dois aller. Et puis ça me permet aussi de savoir quelle est ma rentabilité, puisque malgré tout c'est un métier vers lequel il faut réussir à vivre, donc il faut réussir aussi à être un minimum rentable.
Je vais me sortir le matin, manger des gâteaux gras. Je vais devoir filmer, gratter les jeux de hasard. Je n'ai garanti, je ne vais pas avoir le choix. Le pâté de campagne, les caresses du passé. J'ai l'odeur de l'essence, les essences de jasmin. J'aime les flammes agitées et les paysages cramoisis. J'aime ce que procure la nuitée, au visage renfermé. J'aime l'espace, attends, l'autobus quand il pleut. Les arbres au printemps, quand les gens ils m'appellent monsieur. Manger avec les doigts et aussi casser les os. J'aime les battements de cils, les âmes agitées. Le don d'ubiquité et la lucidité. J'aime la couleur du miel et le son des abeilles. Comment es-tu l'ennui, la peau future de rosée. J'aime mon petit nez, ma mère, l'orientation de mon contraire. Quand la musique trop. Le bel équinoxe d'été, le long poids de l'année, les envies inopinées.
Amour par les rappeurs d'Odezen, c'est le genre de musique que tu écoutes dans ton atelier, Léonore, Odezen, Carole G, voilà ce qu'on a écouté tout à l'heure. T'aimes bien écouter travailler en musique.
Ouais, tout à fait, ouais. Un peu fort parfois, parce que comme tu peux l'entendre, il y a un volume sonore qui est assez important dans l'atelier.
Donc là, on doit préciser que le chalumeau est allumé, vous l'entendez, j'espère. Voilà, donc c'est très impressionnant, c'est très beau à voir. D'ailleurs, je trouve cette flamme-là bleue, c'est déjà visuellement, c'est hyper beau. Et c'est bruyant, par contre.
C'est très bruyant.
Donc tu mets la musique à fond, quoi.
La musique est à fond et après, j'ai des protections, j'ai des bouchons d'oreilles moulés parce que vraiment, au bout d'un moment, tu t'entends plus, quoi. Mais là encore, la température du chalumeau, elle n'est pas hyper haute. Donc tu vois, mais plus j'augmente et plus tu arrives à un niveau sonore qui est assez important. Et parfois, quand je fais des démos, tu vois, je suis obligée vite de gueuler pour que les gens m'entendent.
Et il fait chaud aussi.
Et il fait chaud. La température monte vite aussi. Hein,
1200 degrés. Ouais.
Ouais.
Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Tu peux un peu baisser si tu veux. On n'a pas parlé, mais c'est un métier dangereux, le soufflage de verre.
Le soufflage de verre, ouais.
C'est tu travailles à haute température avec des objets très coupants. Voilà. Il y a de la casse parfois, peut-être.
Il y a de la...
Elle est en train d'éteindre le chalumeau en même temps.
Ouais, j'éteins, je fais partir l'oxygène.
Il faut travailler avec des gants, il faut travailler avec un masque, des lunettes de protection, voilà, il faut être très prudent, quoi.
Ouais, c'est un métier qui reste à risque et sur lequel il faut toujours rester vigilant. T'as tendance, tu vois, à te faire un peu trop confiance parfois et la matière, elle est là pour te rappeler que, tu peux pas tout maîtriser. Ça demande beaucoup de patience et puis ça demande aussi effectivement à rester focus parce que tu peux vite te brûler, tu peux vite te dire mais c'est bon, ça je le coupe comme ça et en fait tu te coupes un tendon. Faut bien porter un masque quand tu travailles à froid pour pas te prendre des...
Faut jamais se relâcher en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Alors, ton actuelle exposition à la Chapelle des Calvériennes à Mayenne, elle est peuplée par d'étranges créatures. Mmh. J'en ai parlé un petit peu en intro, que tu appelles les petits monstres. Mmh. C'est un peu ton œuvre signature, ces œuvres-là, parce que c'est toute une famille, en fait.
Ouais, c'est ça.
Combien il y en a dans la
Oh là là, il y en a plein. Il y en a de plus en plus. Il y a pas mal d'espèces, mais on va dire que là, il y a des nouvelles espèces qui voient le jour. Et je ne sais pas combien j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup.
Alors... On peut peut-être les décrire, ces petits monstres.
Oui.
En fait, déjà, je le disais aussi, elles ont des longues... Je ne sais pas si on dit il ou elle. Ils ont des longues pattes. Quatre, en général.
Quatre longues pattes,
toujours quatre pattes.
Toujours quatre pattes, okay. Pour l'instant, en tout cas.
Très longues, en fait, sur lesquelles ils reposent. Et ces pattes-là, en fait, elles sont très effilées, comme ça. Presque comme des tentacules, en fait, de pieuvre. Mmh. Et elles viennent se coller, enfin je sais pas comment dire,
se fusionner
avec le corps du petit monstre, qui est aussi un réservoir en fait.
Ouais, qui est un contenant.
Voilà.
Un contenant qui vient accueillir un contenu qui est le végétal.
Ouais, ouais.
Mais ouais, tu parlais un peu de ces longues jambes qui représentent souvent c'est une référence qu'on me sort, les éléphants, ouais. Tu sais, de Dali.
J'étais pas très original là-dessus.
Pas du tout, mais c'est, en vrai, c'est une des références que j'ai eu moi dans mes études. Et je pense que ça, malgré tout, ça résonne en moi quand je réalise mes pièces, parce que je me souviens qu'on était allé à l'exposition de Dali quand j'étais en mise à niveau en art appliqué, donc ça remonte à 1000 ans. Et il y avait ces fameux éléphants aux longues pattes. J'ai pas le nom du tableau en tête, mais je pense que tout le monde voit très bien duquel je parle.
Oui, on voit tous, je pense. Ouais.
Et donc, effectivement, t'as un corps au centre qui permet d'accueillir la vie et qui permet le développement végétal. Après, c'est vraiment un dialogue entre un contenant inerte et un contenu vivant. Et c'est des formes qui sont statiques, mais qui semblent mouvantes.
Et ouais, c'est vrai, on a l'impression qu'elles vont bouger ou qu'elles ont, elles viennent de se déplacer.
Ouais. Et qu'elles jouent à 1, 2, 3 soleils un peu, tu vois.
Ouais. Parce qu'effectivement, tu donnes un mouvement aussi dans la forme des pattes. En fait, il y a déjà un mouvement, il y a une forme de marche en fait, qui est donnée.
Il y a une dynamique qui se met en place qui, pour moi, est plus comme un screen d'une vidéo chorégraphiée, si tu veux. C'est comme si tu avais fait une vidéo. Ouais, c'est ça, tout à fait. Parce que moi, dans ma tête, elle bouge. Et là, c'est juste un arrêt sur image parmi leur déplacement. Quoi.
C'est juste que là, au moment où on les regarde, ils se sont arrêtés. Quoi.
Ouais, exactement.
En fait, on est en train de regarder un schéma que tu as fait.
Ouais.
Pour chaque petit monstre, tu fais... Ils sont très beaux, ces dessins. Pour chaque petit monstre, tu crées un... C'est la première étape, tu fais ce dessin.
Alors, la première étape, c'est dans ma tête. Il y a vraiment tout un temps de visualisation mentale, mais qui peut durer 1 an, 2 ans, où je suis pas encore satisfaite et du coup je veux pas le mettre sur le papier. Ouais, je me dis vraiment, attends, ça sert à rien de... Même si le papier, ça te permet quand même de développer derrière l'esthétique, mais c'est comme ça que je fonctionne, c'est d'abord par la tête, ensuite effectivement je pose sur le papier, et là c'est que des profils 2D, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de profondeur, les pattes elles sont toutes à la même hauteur.
Oui.
Aussi parce que ça me sert après pour les plans, à savoir la bonne taille des pattes, quoi. Je dessine des vues du dessus si besoin, et quand je me questionne sur le processus de fabrication, je me permets en plus de rajouter des dessins pour être sûr de ce que je vais faire. Parce que le soufflage de verre au chalumeau, c'est une addition d'étapes qui se font dans un bon ordre. Et pour connaître le bon ordre, tu dois en amont faire ton processus de fabrication pour être sûr que si tu mets cette partie-là en premier, les parties suivantes vont être OK, être sûr que le souffle passe bien.
Ça se réfléchit
bien
sur le papier.
Ouais. Ouais. En amont,
tu
c'est
prévisualises
vraiment...
Quoi. Il y a beaucoup de prévisualisation. Ah, j'ai du mal.
Mais ça, c'est une question qu'on me pose souvent, tu sais, parce que comme je suis artiste, les gens me disent souvent, ah, mais du coup, vous faites ça comme ça, l'idée vous vient et vous créez, et enfin, pas du tout, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas le faire comme ça, aussi parce que j'ai peut-être pas assez d'expérience et parce que je travaille pas comme ça, mais j'ai forcément besoin de passer par des plans pour...
Et donc, il y a quand même... Alors, il y a plein de questions qui m'arrivent, je reviendrai sur celles que je voulais poser, mais avant, je reviens sur ce que tu disais, sur comment naît quand même un moment, c'est quoi qui fait naître l'envie de créer un nouveau petit monstre?
Je vais me répéter, mais je crois que c'est le challenge. C'est juste, en fait, je me motive, je me fixe des objectifs où je me dis.
Des difficultés techniques aussi,
ouais,
parfois.
Ça, okay. C'est ça. Soit c'est une difficulté technique, soit c'est une technique que j'ai pas encore apprise et que j'aimerais bien mettre en place. Ça m'arrive pas mal pour mes autres objets que je vends qui sont plus des objets entre guillemets design et fonctionnels.
Utilitaires.
Voilà, utilitaires.
Ouais, on en parlera un petit peu.
Où du coup, je me dis, ah, cette technique, je la maîtrise pas, vas-y, je vais en faire une centaine et puis comme ça, je vais la maîtriser un peu mieux. Mais par exemple, pour ce petit monstre-là, bon, là, tu le vois pas sur le dessin, mais c'est un petit monstre qui est bleu. Il est coloré avec un vert qui est teinté dans la masse. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas encore fait. La couleur, ça se travaille pas de la même façon que du vert transparent. Donc déjà, pour moi, c'était une première étape. Et il y a aussi une partie sur cet objet-là qui est transparent. Donc c'était de savoir comment je viens fusionner une partie transparente avec une partie colorée. Voilà, toutes ces choses-là.
Et justement, c'est la question de la fusion que je voulais poser juste avant. Donc, parfaite transition. Comment tu peux assembler justement deux morceaux de verre ensemble? Tu les soudes, en fait.
Ouais, je les soude. Parce que, en fait, je les chauffe.
Sur
je
la
les
pièce, on voit, quand on voit une pièce que tu as créée...
T'as l'impression que ça sort d'un moule, un peu.
Oui, il n'y a absolument pas de,
c'est
de
la
couture.
Magie. Ouais. C'est la magie, c'est du soufflage de verre. Ouais. C'est vraiment...
On a l'impression que c'est du même pièce, quoi.
Ouais. Tout. Et quand t'as du verre dans du verre, c'est encore plus magique. Mais c'est que des soudures qui doivent être bien faites, bien ajustées, la bonne épaisseur.
Tu chauffes et t'assembles, en fait.
Ouais, c'est ça.
C'est super beau, ce moment où tu fusionnes deux pièces comme ça.
Ouais, c'est assez magique. Après, souvent, les personnes qui regardent, elles n'ont pas toujours des lunettes, donc tu vois juste deux éléments et puis après ils sont collés, tu vois, dans l'idée. Mais après, c'est tout un jeu derrière.
C'est de la chirurgie presque.
Ouais, c'est assez précis quand même. Enfin, tout dépend de la taille de tes pièces, mais il y a certaines parties qui sont quand même assez précises.
Ouais.
Tu vois, par exemple, ici, je dois souder un diamètre 6 avec.
6 mm.
Ouais, 6 mm avec la pointe de ma boule, quoi. Et donc, ça reste assez technique quand t'as pas la maîtrise, parce qu'il faut que ce soit régulier sur. Sur tout le diamètre, il faut que l'épaisseur soit bonne partout pour que ce soit le plus fluide possible et que tu aies vraiment l'impression que ça sorte d'un moule.
Combien de petits monstres t'as créé ? Je t'ai posé la question. C'était, tu sais pas, mais dans l'expo au Calvérienne, on en trouve combien qui habitent cette expo ?
Alors sur la table principale, t'en as une quinzaine, je crois,
okay.
Qui sont un peu les nouveautés. Et après, dans la salle du fond, qui est la salle carrée, c'est plus la partie atelier. Et là, pour le coup, t'en as, je sais pas, une vingtaine, à mon avis. Et là, c'est vraiment des ratés, des tests, des anciens projets. Enfin, t'as plein de choses différentes qui permettent de comprendre un peu comment ça fonctionne dans ma tête, justement.
Ok. Tous, on l'a pas dit assez, tous, ils sont habités aussi.
Ouais.
Tu l'as dit, ils accueillent, en fait, dans leur corps de l'eau. Et dans l'eau dans laquelle, en fait, des plantes vont plonger leurs racines.
Ouais.
Pour toi, l'œuvre, elle est finie quand la plante
est à l'intérieur.
Sinon, l'œuvre n'est pas finie. Il y a vraiment, je le disais tout à l'heure, une sorte de symbiose, de binôme comme ça, entre minéral et végétal.
Ouais.
Et pour toi, c'est à ce moment-là que l'œuvre est terminée et prend vie.
Ouais, exactement. C'est vraiment quand les racines, elles commencent à se développer. En fait, ce qui est intéressant dans ces objets-là, c'est qu'à la base, c'est des objets qui sont purement décoratifs. Parce que en fait, tu vois quelque chose que tu interprètes d'une certaine manière. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais, c'est un peu comme des tentacules qui se déplacent. Pour moi, c'est pas des tentacules, par exemple, mais c'est chouette de savoir que toi, c'est ce que t'as en tête quand tu vois ce petit animal-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et oui, et du coup, à la base, c'est un élément qui est purement décoratif. Et dès que tu viens mettre un végétal à l'intérieur, t'as des nouvelles matières qui prennent forme parce que t'as des racines qui arrivent, donc t'as tout un côté écosystémique qui vient se mettre en place, et donc t'as un dialogue qui vient se créer entre matière vivante et matière inerte, et c'est là vraiment que je trouve ça intéressant, parce que déjà le type de végétal que tu mets dedans donne un nouveau caractère à la pièce qui à la base était simplement décorative, et ensuite t'as tout un univers qui se crée parce que dedans il y a de la matière qui arrive, quoi. Donc il y a un glissement qui se fait entre un objet qui est à la base simplement décoratif et finalement qui devient carrément un écosystème.
Et la botanique, le végétal, c'est très important dans ton travail depuis le début, même quand tu faisais des tests déjà à l'ESAD, à Saint-Etienne, les projets que tu as pu mener, il y a toujours une dimension
végétale
et vivante. Ça fait vraiment partie de ta démarche, quoi.
Ouais, ça fait partie de ma démarche parce que... Pourquoi ça fait partie de ma démarche ? Non, mais il y a mille argumentaires avec lesquels je vais te le donner.
Oui, c'est ça.
Moi, ça m'a toujours intéressé d'avoir du végétal chez moi, en intérieur. C'est un peu comme du néocolonialisme, le fait d'avoir des plantes un peu qui vivent dans des atmosphères tropicales, semi-tropicales, que nous, on ramène en Occident, qu'on miniaturise, etc. Et en fait, je trouvais ça intéressant de réfléchir là-dessus et puis de savoir aussi comment les végétaux ont été intégrés dans nos intérieurs. Et ça a été le travail d'un mémoire sur lequel j'ai étudié depuis la Mésopotamie, avant l'Antiquité jusqu'à nos jours, comment le végétal a vraiment intégré nos intérieurs, quelles étaient les symboliques d'abord, quelles sont les symboliques aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plus du néocolonialisme, le fait aussi de faire de la... Comment ça s'appelle ? Quand c'est de la science un peu facile, tu sais, quand on t'explique...
La vulgarisation.
Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas mal de vulgarisation scientifique aussi. Enfin, toutes ces choses-là où avant, c'était beaucoup plus les croyances, les relations que tu peux avoir avec les esprits. Donc, les plantes, elles restaient quand même dehors. Après, c'était sur le rebord des fenêtres. Après, elles ont sauté dans la maison. Okay, enfin, tu
vois,
c'est...
Il y a toute une histoire de comment on vit avec les plantes.
Ouais.
Et qu'on va retrouver aussi dans ton expo, parce qu'il va y avoir les petits monstres qui accueillent des plantes. Il y a aussi plein d'objets que tu crées, des tuteurs, des gouttes à gouttes, beaucoup de ce que tu travailles à un lien avec le végétal. On va retrouver ça aussi dans l'expo d'ailleurs, au-delà des petits monstres, ce type de création aussi.
Alors pas tout à fait les mêmes, c'est vrai que je travaille pas mal sur la domestication végétale de manière générale, parce qu'en fait les petits monstres c'est de la domestication végétale si tu veux, parce que vraiment c'est maintenir en vie une espèce dans un mini contenant où elle doit s'adapter, c'est de la domestication. Et, Et je travaille sur effectivement la croissance végétale, enfin différents types de domestication, mais là je m'interroge aussi sur le cycle de vie du végétal, et donc comment on peut l'hydrater, comment le prendre en compte du début jusqu'à la fin de son cycle, comment le réutiliser derrière. Donc tu vas avoir de la mousse de verre par exemple, et puis tu vas avoir aussi un pic flore revisité que les personnes vont pouvoir voir dans l'une des salles de cette exposition.
Ok, comment tu l'as conçu cette expo? T'as pas pensé juste aux œuvres et créer des œuvres pour l'expo? Il y a aussi une scénographie, il faut l'habiter ce lieu,
ouais.
Qui est une chapelle, qui est très haute de plafond, qui est très spacieuse, qui a déjà un caractère à elle. Peut-être un dernier mot là-dessus sur cette expo.
Eh bien, comme mes objets sont tout petits, je me suis dit bon. En vrai, je l'ai investi. Certaines salles, c'était un peu comme un shooting photo, comme une exposition photo où t'as les petits monstres qui se posent et puis t'as des drapés comme ça qui viennent investir l'espace. Et après, ce sur quoi j'ai pensé dans l'expo, c'est notamment la mise en valeur, on le parlait tout à l'heure, du verre borosilicate et de ses qualités. Et donc la plupart des structures qui sont porteuses dans l'exposition sont faites avec cette matière-là.
D'accord, directement
en verre. Ouais, directement okay. En verre borosilicate, okay. Ce qui était un peu la hantise de Marion, je pense, au début, où elle s'est dit « purée, qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Mais ça a très bien fonctionné, il n'y a pas eu de casse, donc tu vois.
Ok, super. Très bien, merci. Dernière respiration musicale dans cette rencontre avec toi, Léonore. Son dernier choix musical avec le crooner américain Perry Como.
Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Too many nights,
too many nights,
too many stars,
too many stars,
too many moons could change your mind.
Don't let the moon change your mind.
If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love. Get in your eyes, don't let the moon break your heart.
Don't let the moon break your heart.
Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love.
I'll ever love.
I'll ever love. You're the only one.
Dernière séquence de notre rencontre avec Éléonore Gold-Dalg pour évoquer peut-être avec toi, Éléonore, tout ce qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, et il y aurait sans doute une autre émission à faire, pour dire notamment que tu conçois aussi des objets pour les autres, finalement sur commande, quoi.
Exact, je fais du sur-mesure. Je fais du sur-mesure, ce qui me permet de collaborer avec des artisans-artisanes, des artistes, des designers aussi.
Et justement, un peu comme toi au début. Rien envie de faire un objet en verre, mais on pas la technique, on pas le matériel.
C'est
ça. Du coup, il sous-traite, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Ça permet de découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux projets aussi. Voilà, c'est intéressant.
Donc, tu peux travailler, par exemple, avec un parfumeur
qui, tout à fait.
Qui te commande des flacons, par exemple.
Oui, je travaille avec une créatrice de parfums pour laquelle je fais des flacons. J'ai travaillé avec des designers, des artistes aussi pour des pièces d'exposition. Mmh. Donc parfois, c'est des toutes petites séries. Parfois, c'est vraiment un objet pour une expo qui tourne après.
Alors là, en fait, on a l'intervention de Coco, ton chien, Léonard, qui vient carrément mordre le micro.
Mordre
et bailler,
quoi.
Qu'est-ce que tu veux nous dire? Trop mignon. Il est trop mignon. Donc du coup, je sais plus. On parlait, oui, de ton travail de commande.
Ouais.
Ça te permet aussi, voilà, faut en parler aussi hein, de l'argent,
ouais.
d'avoir aussi un complément de revenu.
Exact.
À côté de tes propres créations.
Ouais.
Et ouais, vas-y.
Dans le complément de cette activité-là, en soufflage de verre, j'ai aussi mes propres productions que je fais en petite série. Tu vois, on en parlait tout à l'heure de tout ce qui est. Tuteur, diffuseur à eau, etc. Là, c'est des objets qui sont plus utilitaires.
Ouais, tu fais un peu à la chaîne aussi, là, pour le coup.
Ouais, c'est ça. C'est à la chaîne, mais ça reste des petites séries de quelques exemplaires.
Ouais, tu t'en fais pas 300 non plus, quoi. Enfin, si,
non,
peut-être.
Au bout d'un moment, ça s'additionne. Donc,
il y en a
quelques-uns où tu te dis, en fait, j'en ai fait pas mal. Mais dans l'idée, ça reste des petites séries.
Mais ils restent très beaux, en fait, ces objets.
Oui.
Ils sont fonctionnels, mais parfois, la fonctionnalité, ça donne une forme superbe aussi. Et
ouais.
Pour le coup, c'est presque, enfin pour moi, c'est pas loin d'une œuvre d'art aussi.
Ouais, je pense que
même la cuillère que t'as fait aussi.
Ouais, le verre fait aussi que t'as une dimension esthétique qui est assez.
Ouais.
Attends, je descends
assez
le chien.
Transparence là.
Donc ça aide pas mal à pimper l'objet. Mm. Mais sinon, à côté de ça, de mon activité de soufflage de verre, j'ai aussi une activité d'enseignement. Mm. Ce qui me permet aussi de pouvoir équilibrer ma vie et mon. Mm. Je sais pas comment on dit, ma rente. Enfin,
tes revenus.
Mes revenus. Enfin, d'être bien, quoi. De me sentir à l'aise financièrement tous les mois, quoi.
T'as pas la pression aussi.
Voilà, c'est ça.
Tu sais que t'as un fixe avec ton, ton travail d'enseignante.
Tout à fait.
Et qui se passe d'ailleurs à Laval, ça c'est super.
Ouais, c'est trop bien.
À l'école de design de
Nantes-Atlantique.
De Nantes-Atlantique, qui a une antenne à Laval.
Tout à fait.
Et donc, toi, tu vas toutes les semaines donner des cours de design aux étudiants.
Je fais de la création plastique, ouais.
Ah oui, donc tu es en plus dans une dimension workshop, atelier, c'est pas purement théorique.
Non, c'est vraiment création plastique, dessin de volume d'objets, des choses comme ça.
Okay.
Et c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup. Les étudiants et étudiantes sont hyper investis et intéressés, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis encore une fois, il y a la possibilité de faire des projets hyper intéressants avec eux, et je fais notamment, encore cette année j'espère, un workshop soufflage de verre au chalumeau avec mes petits étudiants.
Et puis ça te sort de ton atelier. Ça te permet de rencontrer du monde, même si t'es assez solitaire.
J'ai des collègues.
Non, mais c'est vrai, si parfois, quand on travaille tout seul, toute la journée, ça fait partie de l'équilibre aussi. Il y a l'équilibre financier, mais il y a l'équilibre aussi social, relationnel, je sais pas.
Ouais, ouais. Bah, ça fait du bien, effectivement, de sortir de tout ça. Et puis l'équipe est vraiment sympa. Donc j'ai toujours plaisir à venir à l'école, moi. Et puis oui, tu vois du monde, ça fait du bien.
Alors si on veut voir ton travail, on peut aller à l'exposition, j'en reparlerai tout à l'heure, je leur donnerai les dates, les horaires. On peut aussi acheter et voir tes œuvres, ou tes productions en tout cas, au Manas, au musée d'art naïf de Laval, qui propose quelques-unes de tes... Alors ça va être plutôt justement le goutte-à-goutte, les tuteurs...
Là, ça va être un outil de bouturage qui est en lien avec l'ambiance un peu du musée et notamment toute l'ambiance végétale que tu peux retrouver et qui ressort de ces tableaux naïfs. Et après sur Laval, on me retrouve aussi dans la boutique Des Comètes plein les mirettes, qui est en haut de la grande rue et qui est tenue par Yvan
Fougeret.
Tout à fait, qui vous accueille avec plaisir. Merci Yvan de proposer mes objets là-bas. Et il y a plein d'objets de type diffuseur à eau, des tuteurs, plein de contenants pour faire du bouturage, etc.
Il y a la boutique aussi, c'est pour les Parisiens. Il y a la boutique du Grand Palais aussi qui vend tes œuvres, je crois.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi le Grand Palais, boutique design et métiers d'art.
Ouais. Et pour en savoir plus et pour voir tes œuvres en vrai, en tout cas en photo ou en vidéo, et aussi voir justement comment tu travailles, il y a aussi ta page Insta. Instagram, Gold Dalg Atelier, où il y a plein de vidéos justement, plein de photos. Donc on peut aussi découvrir ton travail par là. Et puis bien sûr, on vous recommande chaudement la visite de l'exposition Formes Fertiles jusqu'au 21 juin à la chapelle des Calvériennes à Mayenne. C'est ouvert le mercredi et le samedi et le dimanche après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est une visite gratuite. Merci beaucoup en tout cas Éléonore pour ton accueil ici et pour avoir répondu à notre invitation.
Merci à toi.
Un grand merci aussi aux indispensables Margot et Joël à l'autre radio pour leur aide précieuse. L'émission prend ses quartiers d'été. Rendez-vous donc en octobre prochain pour la suite de nos aventures radiophoniques. D'ici là, faites de beaux rêves. L'émission.